Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route Burning. Comment ça sur la route Burning ?
Je m'appelle Eric, je vis à Cornas et j'ai monté il n'y a pas très longtemps un petit studio d'enregistrement qui s'appelle Mystery Train Studio. Voilà.
Alors il y a peu on a parlé Cinoche et c'était très chouette. Eh bien aujourd'hui c'est de punk dont il sera question et ouais. Épisode éminemment musical donc. Et l'occasion étant trop belle, l'habillage sonore ne sera pas signé par Indie Ground, non. La playlist vous sera proposée par l'invité himself. Avec même quelques passages, et ce n'est pas pour me déplaire, du Clash. Alors, au menu du jour, les années 80. Des skins, des rockabs, des mods, des punks, du bitume de Paname et de la banlieue nord. De Mystery Train Studio et de Doom Mantra, il en sera également question. Et puis, d'éthique, de démerde et de supplément d'âme. Bonne écoute, bonne balade, et on se retrouve à la fin afin de se dire au revoir. Il n'y a pas longtemps, sur Radio Saint-Ferréol, tu as participé à une émission où tu as proposé de parler pendant une heure du Clash. Et ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas encore apprendront à connaître que moi, je suis assez fan de ce groupe-là, pour ne pas dire complètement red dingue. Et donc, c'est un petit peu par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Mais on en parlera peut-être plus tard du Clash. Moi, ça me ferait plaisir, mais on verra si tu as le temps. Mais du coup, est-ce que tu veux bien rembobiner la bande, là, et me dire comment tu rencontres les Clash et qu'est-ce qui s'est passé du coup par la suite?
Alors écoute, moi c'est pas compliqué, j'ai grandi dans une cité de transit, dans la banlieue parisienne à Créteil, et donc dans mon école on faisait des échanges linguistiques, c'est-à-dire que pendant deux semaines on partait en Angleterre et puis pendant deux semaines on accueillait des Anglais en France. Et donc je suis parti à Bromley, moi, dans la banlieue sud de Londres. Et puis à l'époque, il restait encore quelques membres de ce qu'on appelait le Bromley contingent. Mais moi, j'étais môme, j'avais 10-11 ans et je voyais passer ces gens avec des crêtes et tout. Et je me demandais dans quel monde j'étais arrivé, quoi. Je comprenais pas grand-chose, quoi. Et puis moi, j'ai toujours écouté énormément de musique quand j'étais petit, quoi. Et donc naturellement, j'ai été faire un tour dans un magasin de musique et j'ai acheté un 45 tours. Alors j'ai acheté un 45 tours d'un groupe que je connaissais pas, mais parce que la pochette me plaisait, on voyait un revolver fumant pointé. Qui était imprimé au centre de la galette. Et donc je suis rentré en France et j'ai donc écouté le 45 tours des Clash, j'ai adoré. Je savais pas trop de quoi ça parlait, donc j'ai demandé à ma prof d'anglais de me traduire les paroles. J'ai compris que ça parlait de ma vie, quoi. Ça parlait de ce que je vivais moi au quotidien et j'ai complètement adoré ce groupe-là et depuis ce jour-là, j'ai commencé à acheter des disques des Clash. Parallèlement à ça, moi, les étés, je bossais sur les chantiers, donc je me faisais un peu de thunes et donc, premier salaire, je m'achète un ampli, une guitare et j'apprends à jouer de la guitare tout seul dans ma piole, quoi, en écoutant les trucs, en décomposant d'oreille ce que j'entendais. D'ailleurs, c'est toujours tellement vrai que je suis incapable de, on me demande de faire un fa sur un manche de guitare, je sais pas du tout faire un fa. Par contre, je sais très bien reproduire ce que j'entends, tu vois. Et donc, j'écoute les Clash et je me dis, mais moi, c'est ça qu'il faut que je fasse aussi, quoi. Il faut que je monte un groupe. Et j'étais un môme un peu asocial, un peu dans son coin, dans son monde, dans son univers. Et du coup, ça m'a poussé à rencontrer des gens et à faire un truc dont je pouvais être fier. Tu vois, j'ai monté des groupes, j'en ai monté beaucoup. Et puis, je me suis amélioré au fur et à mesure de mon apprentissage de la guitare. Et j'ai eu envie de faire des trucs de mieux en mieux. Et parallèlement à ça, je trouvais ça vraiment amusant de pouvoir m'enregistrer, quoi, tu vois. Donc j'avais une platine cassette à la maison, là, et je me rentrais mon jack guitare dans l'entrée micro du truc. je foutais rec, que ça saturait à mort, mais c'était rigolo, quoi, tu vois. Dans les années 80, on a vu apparaître les premiers 4 pistes cassettes, donc je me suis saigné avant parce que c'était quand même pas donné à cette époque, tu vois. Et je me suis acheté un 4 pistes cassette, et puis j'ai commencé à réfléchir un peu. Bah, je me suis dit, bah, tiens, avec une guitare, je peux faire ça, avec une autre piste, je vais pouvoir peut-être faire des arrangements. Et tu vois, de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'enregistrement tout en continuant à faire du rock, quoi, tu vois. Et donc, bah, j'ai commencé à enregistrer un peu les copains, quoi, tu vois. Comme ça, c'était rigolo, quoi, c'était sans prétention. Et puis bon, on a fait un 45 qu'on a autoproduit nous-mêmes. Il s'est passé plein de choses à cette époque-là parce que c'était bouillonnant dans les années 80. En banlieue et en région parisienne, il y avait plein de choses, plein de mouvements. Enfin bon, bref. Et donc j'ai été un peu dans tous ces trucs-là. Et il y avait des petits labels qui se créaient. On avait vraiment développé ce truc-là d'être autonome complètement dans tout ce qu'on faisait. Autoproduit à mort, quoi, tu vois. Et puis bah, j'ai continué moi à faire de la musique, et puis j'ai fait après une école pour apprendre le métier d'ingénieur du son. J'ai bossé un peu sur Paris, dans les congrès, dans les studios, sur les plateaux de tournage, quoi. Et puis mon parcours dans le son, c'est celui-là, mais il est quand même intimement lié à la musique, et il est intimement lié au rock et au punk en particulier, parce que c'est une démarche et une manière d'aborder les choses je dirais pas que c'est à part, ça serait vachement prétentieux, mais c'est un angle, c'est une façon de voir les choses, une manière de prendre les choses que je trouve assez sympathique, quoi.
Bobine, la bande, là, on parle à nouveau du oui. Bromley contingent, là. Ouais. Tu les as approchés ou tu les as vus de loin? T'as eu des rapports avec eux? Et si oui, comment ils se comportaient?
Ben, en fait, non, j'ai pas eu vraiment de rapport avec eux, déjà, parce qu'à cette époque-là, t'étais français, tu te baladais dans la rue, la trouille que t'avais, c'était de te retrouver avec des skinheads, et ça, c'est pas une légende, parce que j'ai vu un de mes potes se faire latter sous un abribus par des skinheads, quoi. Donc, en fait, non, on entendait parler du Bromley contingent, mais on voyait surtout des mômes de notre âge qui traînaient avec des dégaines pas possibles, tu vois, des Harrington, des jeans retroussés, des Doc Martens. Alors nous, des Doc Martens en France, on savait même pas ce que c'était, tu vois, c'est arrivé bien plus tard. Et on voyait tous ces jeunes, toute cette espèce de corps de môme, en fait, qui était de notre âge, mais en fait, ils débarquaient d'une autre planète, quoi, tu vois, on sentait complètement largué, nous, Français, tu vois, on écoutait des trucs comme AC/DC, comme Motorhead, tu vois, mais le punk, c'était quoi? Et en fait, j'ai compris par la suite, j'ai commencé, moi, ce truc-là de traduire systématiquement tout ce que j'entendais sur les disques et les vinyles que j'achetais pour comprendre en quoi c'était un truc important, tu vois, en quoi ça nous parlait de notre vie. Enfin, moi, je peux en parler parce que je vivais dans la banlieue et que c'était une banlieue ouvrière, tu vois, et ça me parlait complètement, moi, ce qui était raconté dans ces paroles, ça parlait de ma vie. Voilà, et c'est en ça que ça m'a intéressé. En fait, le fait d'écouter les Clash, ça a été une révélation pour moi parce que c'est un groupe qui est extrêmement ouvert. Qui est extrêmement ouvert sur son environnement, sur la musique dans laquelle il baigne, donc ouvert sur le reggae, ouvert sur plein de choses. Et moi, du coup, ça m'a ouvert musicalement sur plein de choses différentes et que j'aime encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, j'ai cette ouverture sur plein de styles musicaux complètement différents, tu vois. Vraiment, j'ai aucun a priori, aucun. T'écoutes un album Colonel Calling, c'est en fait c'est toute l'histoire du rock qui est revisité, quoi. T'as du rockabilly, t'écoutes Sandinista. Alors Sandinista, c'est encore pire parce que là on voyage, ça passe du gospel, ça passe de la funk, ça passe au rap. Enfin tu vois, il y a plein de styles différents, mais toujours avec cette cohérence, avec un message qui est toujours là au fond et qui fait qu'en fait tout ça devient extrêmement cohérent. Et en fait peu importe les musiques, les styles musicaux, parce qu'en fait le punk c'est avant tout une démarche. C'est un état d'esprit, le punk. Le punk, c'est pas un style musical. Il y a pas de style musical. C'est quoi le punk? C'est pas des guitares saturées à fond, forcément. Ça peut être autre chose, quoi. Le punk, c'est avant tout une manière de te comporter et une manière d'aborder la vie, quoi. C'est une manière d'être extrêmement critique par rapport au monde dans lequel tu vis, et c'est une vision originale sur les choses. Tu vois, pour moi, c'est ça le punk. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui, même si musicalement le punk est vachement daté. Mais il y a des groupes aujourd'hui comme les Idols. comme Fontaine d'Issy qui perpétuent cette tradition du rock. Les mecs, les Idols, ils sont extrêmement féministes dans leurs paroles, dans leur façon de se présenter au monde. Et ça, c'est terriblement punk, ça.
À l'écoute de Sur la route en compagnie d'Eric. Retour à l'entretien.
Bon, en fait, si tu veux, le truc il est super simple, c'est qu'en fait dans les années 80, quand t'es môme, tu cherches des mecs qui sont un peu comme toi, et en fait t'écoutes de la musique et t'écoutes du punk parce que ça te plaît. Mais les mecs qui écoutent du punk, il y a des filles qui écoutent du punk, il y a des homosexuels qui écoutent du punk, il y a tout le monde qui écoute du punk. Donc comment tu veux exclure ces gens-là? Ces gens-là, ils font partie de tes potes, ils font partie de ta vie, quoi, tu vois. Et donc forcément, t'es ouvert sur ces gens-là. Comment tu peux être fermé à des gens? Tu te revendiques toi-même comme étant différent. Comment tu peux taper sur la différence? C'est complètement absurde. Donc forcément, t'adoptes tous les gens qui sont les moutons noirs. Et forcément, c'est tes potes. Donc le punk, c'est forcément une école d'ouverture. C'est forcément une ouverture sur les choses et tu peux pas être... C'est surtout pas de l'intégrisme, aucune forme d'intégrisme. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ce mouvement. Et c'est un héritage qui, pour moi, est encore... enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, c'est encore quelque chose de super vivace aujourd'hui, quoi, tu vois. C'est une école de tolérance totale, quoi. Moi, il y a des rappeurs qui viennent me voir, mais welcome, venez les mecs, vous avez des trucs à raconter. Moi, ça m'intéresse ce que vous avez à dire, tu vois. Je suis pas bloqué parce que le mec joue pas avec un ampli saturé à burn. C'est pas le propos, tu vois. C'est avant tout une démarche extrêmement... extrêmement sensible, c'est une démarche extrêmement personnelle, c'est la revendication d'une différence, et voilà quoi, et c'est merde si vous ne m'acceptez pas, mais moi je suis comme ça, et j'affirme ma différence. Le punk, c'est pas hurler avec la mode, quoi. C'est avoir un point de vue original sur les choses, c'est d'être curieux, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière ce qu'on nous annonce et ce qu'on nous revendique comme étant des vérités actuelles, c'est toujours avoir cette espèce de recul et de regard critique, quoi. Et ce que je te dis là, c'est pas du tout un discours d'un télo. C'est juste le discours d'un mec qui veut pas qu'on ait d'emprise sur lui, quoi. Qui refuse l'emprise de qui que ce soit, tu vois. Le punk, c'est un paradoxe, en fait. C'est l'affirmation d'un individualisme. Et en même temps, c'est ce côté terriblement communautaire aussi, tu vois. Mais tu vois, avec ses limites. Parce que le punk, c'est quand même quelqu'un de super individualiste et qui va tracer sa voie sans se préoccuper de ce que vont dire les autres. Et en même temps, le punk, il est solidaire. C'est aussi un mouvement extrêmement solidaire avec les minorités, tu vois. Voilà. Alors après, on peut y mettre de la politique, pas y mettre de la politique. Moi, je sais que dans les années 80, on était quand même vachement politisé, quoi. On était clairement à gauche. Moi, on fréquentait des anarchistes autonomes, on fréquentait tous ces gens-là. Et voilà. Mais pour autant, je sais que, me concernant, enfin, j'ai rarement vu des gens de mon entourage prendre une carte dans un parti, tu vois. On peut être intéressé à un moment par les idées véhiculées par un parti, mais il n'y en a pas un qui avait envie de se faire embrigader, tu vois. On a toujours voulu conserver cette espèce d'indépendance farouche, quoi. Voilà. Jean-Pascal est à fond, on l'a trop fait crier. Des ponceaux sont dingues qui dirigent les lycées. Dans sa tête ça va bien, chez les autres ça va pas. Il parle au magnéto, le magnéto ne comprend pas. C'est comme ses copains, comme son ami Florence. Mais que fait donc Jean-Pascal pour la France? Jean-Pascal n'a jamais cessé de vivre, on le lâche de partout, c'est bien compréhensible. Un humain, ça travaille. Jean-Pascal, il écrit. La France, ça ne s'écrit pas, la France, ça se construit. On prend Jean-Pascal dans ton cerveau, ça lance. Mais que fait donc Jean-Pascal pour la France? Faut pas non plus rêver, hein. Le punk, c'est pas non plus un truc de saint, hein. Je veux dire, voilà quoi, il y a tout dans ce mouvement punk, mais bon. Ouais, j'aime à croire qu'il y a peut-être une forme d'éthique, ouais. Ça se fait pas, quoi, tu vois. Il y a des choses qui se font pas, quoi. Voilà. tu vois, en plus, on était quand même pas, enfin, je veux dire, on se comptait, quoi, tu vois. Et puis, à cette époque-là, dans les années 80, c'était rigolo parce que tu croisais quelqu'un dans la rue, tu savais tout de suite ce qu'il écoutait. Tu vois, tu voyais un mec, tu savais qu'il écoutait du Cure. Tu voyais un autre mec, c'était un rockab fini, quoi, tu vois. Ah, j'en ai des histoires à te raconter sur les rockabs à Juvisy, mais quelle histoire, enfin, c'était vachement drôle, quoi. Tu voyais les mods aussi, tu voyais un peu dans quel truc ils étaient. Alors, les mods, tu savais pas trop bien s'ils étaient plutôt avec les skins ou un peu clépunk, c'était un peu compliqué, ils étaient un peu dandy, un peu à part. Bon, les skins. Alors, les skins aussi, c'était compliqué parce que t'avais les skins, t'avais les red skins, et puis t'avais les skins d'extrême droite, quoi. Tu vois, nous, on était potes avec des skins, mais des red skins, quoi. Des Root Boys, tu vois, les skins de 69, quoi, de l'esprit original, quoi. Mais bon, quand de loin tu voyais une bande de 10 mecs avec des bombers, tu faisais pas la différence, et donc tu savais pas si ça allait te faire latter ou si ça allait bien se passer, tu vois. Et c'est ce que chantait bien d'ailleurs la souris déglinguée, c'était Paris Maquis à l'époque, tu vois. Et donc c'est rigolo. Et donc, pour en revenir à ta question, effectivement, quand t'étais punk dans les années 80, tu faisais partie d'un groupe, quoi, enfin, t'appartenais à quelque chose, tu vois. Mmh. Ça avait du sens. Tu voyais un mec qui avait la même dégaine que toi, c'était ton pote, forcément. Mmh. Enfin, même tu le connais pas, tu vas le brancher tout de suite et tu discutes avec lui, bon, tu vas boire une bière et puis après tu te barres en concert avec lui. Ça vient de tes potes, tu t'établis une connexion avec des mecs que tu connaissais pas, tu vois, des mecs de la banlieue nord. Ben voilà, du coup, ah, il y a quoi dans la banlieue nord? Ben, il y a des groupes qui répètent, ben, on va tous débouler banlieue nord, on va voir ce qui se passe là-bas, tu vois. Mmh. C'était ça, quoi. Mmh.
Et donc, il y avait des hauts lieux, et ça aussi, c'est une des raisons qui nous a fait marrer à parler à distance avant de se rencontrer, c'est que tu me parlais de Luna Rossa.
Ah oui, bah Luna Rossa, les frigos, ouais. Ouais, qu'il y a de la gare, bah oui, c'était à Paris, ça, c'était dans le 13e arrondissement. Alors, t'imagines une espèce de grande tour où il faut monter les escaliers pour aller répéter. Et il y avait un studio d'enregistrement qui s'appelait WW, d'ailleurs, c'est là où on enregistrait notre premier 45 tours. Et à Luna Rossa, ben ouais, voilà, tu voyais passer, c'était vraiment arty, quoi. T'avais des tags de partout, t'avais des mecs qui étaient artistes, qui avaient loué des trucs pour aller faire de la peinture, enfin, et t'avais des groupes qui répétaient, quoi, tu vois, à Luna Rossa. Et il y a notamment LSD qu'on a croisé plusieurs fois, quoi. Et c'était un endroit, c'était furieusement rock'n'roll, quoi, Luna Rossa, tu vois. Les amplis étaient pourris, enfin, tu vois, mais bon... Tu vois, voilà, quoi.
Ouais, il y avait une ambiance.
Bah, il y avait une ambiance, c'est un endroit qui avait vraiment une âme, quoi. C'était particulier, Luna Rossa, quoi. J'ai pas trouvé ça ailleurs, quoi. Il y a eu des endroits. Alors, il y a eu, enfin, moi, j'ai pas connu cette époque-là. Il y a eu Parking 2000, en fait, c'était des parkings souterrains qui avaient été aménagés plus ou moins sauvagement en local de répète. Mais ça, j'en ai entendu parler, mais j'y suis jamais allé. C'est pour te dire que, bon, à un moment, trouver des endroits où pouvoir répéter, c'était compliqué dans la capitale, tu vois, c'était pas simple. En banlieue aussi, pareil, il y a moins de trouver un mec qui avait un garage pour pouvoir se mettre dedans, mais on était emmerdé par les flics tout de suite, quoi, tu vois, donc très tôt, il fallait trouver la nécessité de pouvoir répéter, et de pouvoir répéter surtout à pas cher, quoi, tu vois, et Luna Rossa, c'était pas cher. Ben là, mon studio, pour l'instant, ce que je peux te proposer, c'est de faire de la prise de son un petit peu en nomade parce qu'on est en recherche d'un endroit qui puisse nous accueillir pour poser nos glingues. Je propose du mix, je propose de la prise de son de voix, je peux faire des instruments séparés. Et quand il y a un projet qui nous est proposé, à ce moment-là, nous, on se déplace, on trouve un endroit qui soit approprié et on prend tout notre bateau si on enregistre un groupe, s'il a besoin d'un son, quoi, voilà.
Là, pour le moment, est-ce que ton studio est un peu en stand-by? Est-ce que tu arrives à t'en sortir? C'est quoi les projets? C'est quoi les collabs? Et puis, le futur?
Bah écoute, là pour l'instant, c'est en fait la création du studio officiel, parce qu'en fait je travaillais déjà un petit peu, quoi. Elle est née de la demande de groupe d'enregistrer et de pouvoir que je puisse les aider à pouvoir produire leur EP, quoi. Et donc la demande, elle s'est fait encore plus pressante dans le sens où le label Doumantra m'a demandé si je voulais participer à leur live session et m'occuper de la captation live de ces deux journées de live vidéo son, quoi. Et donc ben, j'ai accepté. Après, il y a eu d'autres projets dont on m'a parlé qui sont venus se greffer là-dessus. Et donc ben, c'est devenu un peu comme une évidence qu'il fallait. Déjà, j'y pensais depuis un petit moment, si tu veux. Mais en fait, ce truc-là est venu comme une évidence et il a accéléré en fait la mise à jour officielle du studio Mystery Train. À l'origine, si tu veux, je voulais attendre vraiment de trouver un endroit qui me convienne bien pour pouvoir poser mes affaires et proposer une activité de studio comme on peut la connaître. Mais moi, mon studio et la vision que j'en ai, si tu veux, ben voilà, on va encore la reconnecter au punk, c'est que c'est pas seulement un studio d'enregistrement, ça sera aussi un endroit où les groupes pourront venir répéter s'ils veulent, mais c'est surtout un endroit, un carrefour pour moi. Je veux que ce soit un carrefour, je veux que les gens puissent se rencontrer. Je veux que les musiciens du coin puissent se rencontrer, donc je vais organiser des événements qui vont permettre aux musiciens de se rencontrer et d'essayer de faire des projets ensemble, tu vois, de connecter un petit peu les gens ensemble. C'est, à mon sens, c'est aussi la vocation du studio. Je ne suis pas juste un endroit où on pourra venir enregistrer. Je veux que ce soit un peu plus que ça. Je voudrais qu'il y ait un supplément d'âme à ça, et ça, bah, tu vois, je le connecte au punk. Parce que ça, c'est typiquement dans l'esprit de ce que j'ai pu connaître. C'est ça, quoi, tu vois, c'est un endroit de partage. Alors, je ne suis pas peace and love, hein, loin de là, hein, faut, voilà, quoi. Mais malgré tout, c'est important d'avoir des endroits où les gens puissent se rencontrer et partager des projets ensemble et avoir peut-être l'envie de pousser plus loin et de monter les trucs. Parce que nous, quand on était jeunes, on n'a pas fait autre chose que ça, quoi. On a rencontré des gens à droite à gauche comme ça et on s'est dit, ah bah tiens, tu joues de la basse, toi tu fais quoi, tu joues de la guitare, ben, si on faisait un truc ensemble, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Mais pour ça, il faut des endroits. Il faut que des endroits qui puissent provoquer ça. Mmh. Et j'ai envie que Mystery Train soit un endroit comme celui-là aussi, quoi. Voilà. Ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, il y a un groupe qui s'appelait Bijoux, quoi. C'était un groupe de rock, rock'n'roll, quoi. Et ils étaient de Juvisy. Et t'avais plein de mecs qui les suivaient, quoi, tu vois. Et puis un soir, on était en train de déambuler, à rentrer d'un concert et à essayer de trouver le train pour pouvoir rentrer sur Paris, la région parisienne, quoi. Et puis à cette époque-là, les rockers et les punks, ça faisait pas bon ménage, quoi, tu vois. Et on a croisé une DS parce que les mecs roulaient en DS, tu vois, c'était blindé de recables là-dedans, quoi. Et puis, on s'est planqué, et donc les mecs sont passés. Et après, donc, on a continué à marcher, on a fait du stop, et on a croisé une 4L de gendarmes, et les mecs s'arrêtent et nous demandent si on veut bien monter et tout. On leur demande, mais monter pour quoi faire? Ben, ils me disent, vous allez où comme ça? On dit, on va à la gare. Ils nous ont dit, ben, montez, on va vous amener à la gare. Et les flics nous ont amenés à la gare. C'est rigolo, tu vois. Voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais les rockables, si tu veux, c'était pas des mecs. C'était des mecs bizarres. En fait, tu veux, c'était des mecs qui venaient vraiment. C'était des prolos, quoi, souvent. C'était vraiment très working class, hein, les mecs à l'époque. Et en fait, c'était pas des mecs très cool, quoi. Ils étaient pas du tout ouverts, tu vois. Ils avaient ce côté rebelle et tout, mais en fait, tu te rendais compte qu'ils étaient en train de reproduire, en fait, le mode de vie de leur père, quoi. Tu vois ? On n'en sortait pas de ce truc-là, quoi. Et nous, le punk, ça a été la rupture avec tout ça, quoi. C'était vraiment... on n'avait pas envie de charbonner comme les gens qu'on voyait charbonner. On avait envie d'autre chose dans notre vie, quoi. On ne voulait pas être juste de la nourriture à usine, quoi. Voilà. En fait, quand on les voyait passer, c'est une belle image, si tu veux. Quand tu voyais des rockables dans une DS, tu te dis, putain, ça, c'est le vieux monde qui passe, quoi. tu vois. C'est fini ça, c'est laminé, c'est terminé, quoi, tu vois. On avait l'impression d'être à la pointe d'un truc nouveau, quoi. Voilà.
Et voilà, c'est ainsi que se termine cette 86e émission de Sur la route. Merci à Eric pour la tchatch, le partage de souvenirs et le bon son. Un entretien mené en présentiel par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage par Indie Grande et musique par Plein de Beaux Mondes. Alors si vous voulez en savoir plus sur les activités d'Eric, propulsez-vous à la vitesse de vos Creepers ou de vos Santiago sur le facebook.com/mystery-train-studio. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur la page mixcloud.com/surlaroute. Et si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/associationresonance. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.